Bonjour à tous et à toutes. Voilà, good morning. Nous allons nous tourner dans la parole à 2 Timothée 3:16 et 17. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Et Seigneur, sans elle, nous n'aurions aucun repère. Nous voyons le monde qui nous entoure, qui est en plein désarroi, à tous les niveaux, Seigneur. Au niveau moral, au niveau économique, au niveau de la vie, Seigneur, du respect de la vie. Mais tu nous as donné ta parole, Seigneur. Nous avons vu qu'elle est inspirée par toi, elle vient de toi, et nous pouvons la considérer comme la base de toute notre vie présente et future. Seigneur, je te demande de nous aider à toujours mieux la comprendre et à toujours mieux la mettre en pratique. Seigneur, qu'elle puisse apporter la joie à ceux qui sont tristes, qu'elle puisse apporter la sagesse à ceux qui sont peut-être un peu trop exubérants par manque de réflexion sur les choses de la vie, Seigneur. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle accomplit son effet, Seigneur, et nous te remercions pour elle. Comme nous l'avons chanté, comme la parole le dit, elle est une lumière à nos pieds, une lampe sur notre sentier, Seigneur, et une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous guide. C'est par ton esprit qu'il a inspiré que nous te demandons de la rendre vivante à nos cœurs. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Nous allons regarder ensemble un verset qui est sur tous les bulletins. C'est un passage qui vient d'Ésaïe 55, 10 et 11, qui nous dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. » Ésaïe 55, 10 et 11. Si ces versets sont sur la première page du bulletin, c'est que c'est un rappel de ce qui nous anime. Nous sommes ici non pas pour donner nos opinions, pour avoir un club où nous nous retrouvons avec plaisir et joie, même si c'est le cas. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous nous réunissons. Cela fait aussi près d'une vingtaine d'années que nous sommes à Nice avec ma femme et que dimanche après dimanche et souvent en semaine, nous étudions la parole de Dieu. La parole de Dieu, il est dit dans le Deutéronome 8, verset 3, et Jésus reprend ce passage biblique de l'Ancien Testament lorsqu'il dit que toute parole est comme du pain qui provient de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de ce pain pour nous nourrir. Et dans le passage de 2 Timothée que nous allons relire, je vais relire le verset 15 à 17 de 2 Timothée 3. C'est un peu le pendant de ce passage d'Ésaïe. Il est dit « Depuis ton enfance, Paul s'adresse à Timothée et lui dit « Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. » Là, il parle de l'Ancien Testament. « Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. » Toute écriture, poursuit-il, est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Nous sommes en train d'étudier donc cette dernière lettre de Paul qu'il a écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lorsqu'il dit « toute écriture est inspirée », là il est plus général que seulement l'Ancien Testament où il parlait des écrits sacrés. Il parle de l'Ancien comme du Nouveau Testament, il inclut cette lettre. Pierre inclura dans l'Écriture aussi les écrits de Paul. Tous les écrits de Paul n'ont pas été inspirés par Dieu, mais ceux que nous avons en notre possession sont des écrits inspirés de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui les a soufflés, c'est Dieu qui les a expirés, mieux qu'inspirés. On dit souvent que la Bible est inspirée. C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a Dieu. Mais là, la parole, c'est la traduction « toute écriture est inspirée » est une mauvaise traduction. C'est expiré, elle est soufflée par Dieu, elle vient de Dieu. Ce n'est pas des paroles d'homme, c'est la parole de Dieu. Et nous avons regardé ce point en assez grand détail la semaine dernière. Je vous invite, si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas écouté, à écouter le message de la semaine dernière qui montre pourquoi on peut être sûr que la parole de Dieu, la Bible, est la parole donnée par Dieu. Nous avons dit qu'en fait, certains disent que c'est un raisonnement circulaire. Vous dites que la parole est la parole de Dieu parce qu'elle le dit. Et c'est vrai qu'on pourrait dire quelque chose et trouver la justification dans la chose elle-même, ça ne suffit pas. Mais figurez-vous que Dieu savait ça. Et Dieu a authentifié sa parole et nous avons parlé des prophéties. Il a mis dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans les textes sacrés, des choses que lui seul peut connaître, les prophéties. Et nous avons explicité un peu cela. Et ça doit nous donner une confiance absolue dans la véracité de la parole. De toute la parole, pas certains passages. Si on commence à choisir, alors à ce moment-là, on se met au-dessus de la parole. On s'érige en juge de la parole au lieu de nous laisser juger par elle. Du fait qu'elle est inspirée de Dieu, cette parole, elle est utile. Nous avons parlé du fait qu'elle est utile pour enseigner la doctrine. Nous avons vu aussi, et on pourrait dire en fait que si nous mettons une telle importance sur l'enseignement de la parole, c'est pas pour avoir une connaissance livresque. C'est pas pour dire, tiens, oui, on peut jouer à des jeux de connaissances bibliques, comme on peut jouer à Trivial Pursuit ou d'autres jeux pour savoir qui le connaît le plus de choses sur l'histoire de France ou l'histoire biblique. Non, nous attachons une importance à la Bible parce qu'elle accomplit une œuvre. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. La parole de Dieu, elle fait une œuvre garantie, assurée. De même que la pluie ne retourne pas au ciel sans avoir provoqué de bonnes choses, de même que la neige ne fond pas et ne retourne pas en vapeur à Dieu sans avoir causé de bonnes choses, ainsi en est-il de la parole de Dieu. Elle accomplit avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Ésaïe 55, 10 et 11. Cette action, le passage que nous regardons en ce moment, et c'est pour ça que nous passons un peu de plus de temps que d'habitude, où nous parcourons toute la Bible de chapitre en chapitre, nous nous arrêtons un peu parce qu'elle explique en quoi la parole est utile, pourquoi elle est profitable. D'abord parce que, ça c'était le verset 15, elle peut donner la sagesse en vue du salut. La sagesse en vue du salut, par la foi en Christ Jésus. Ce n'est pas la Bible qui vous sauve, mais c'est la Bible qui vous mène à Jésus-Christ. Et ça, elle est capable de nous donner la sagesse. Lorsqu'on tourne on met la radio, la télé, qu'on regarde les actualités sur Internet, les débats, c'est pas les paroles qui manquent. C'est pas les avis des hommes politiques de droite, de gauche, du milieu, d'extrême droite, de l'extrême gauche, des syndicalistes chrétiens, des syndicalistes pas chrétiens, des syndicalistes gauchisants, des syndicalistes droitisants, des artistes qui ont leur avis à donner sur tout, et en plus, comme ils sont artistes dans un domaine, on pense qu'ils ont des choses sérieuses à dire dans d'autres domaines, ce qui n'a rien à voir. Mais est-ce qu'il y a de la sagesse dans tous ces propos ? Et nous passons tellement de temps à écouter ces propos, c'est lire les nouvelles, et je suis le premier visé par ça. Est-ce qu'il y a de la sagesse ? Si les hommes connaissaient, lisaient et appliquaient la parole de Dieu, le monde serait bien différent. On est surpris de la crise économique maintenant. On nous dit que ça fait 30 ans qu'on dépense plus qu'on ne gagne. Oh, surprise, ça ne marche pas. La Bible nous conseille de compter le coût avant de nous lancer dans une entreprise. La sagesse la plus élémentaire est bafouée par les plus grands de ce monde et par les plus hautes autorités intellectuelles, morales et tout ce que vous voulez. Mais la parole de Dieu, elle produit le salut. Jésus disait dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Parole de Dieu, c'est un verset clé, elle vous permet de passer de la mort à la vie. Il faut qu'il y ait à la fois la parole et aussi un cœur préparé. Jésus dit plus loin, c'est l'esprit qui vivifie, qui rend la vie. Jean 6, 63, la chair ne sert de rien. Les ressources humaines naturelles ne servent à rien. Par contre, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cette parole de Dieu, elle amène la vie éternelle. Dans Jean 12, 49, Jésus dit encore, « Mes paroles ne viennent pas de moi. » Mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Il faut qu'il y ait la parole et qu'il y ait la foi, et cela produit la vie. Jean disait, pour expliquer pourquoi il avait écrit son évangile, c'est un passage clé, de tout l'évangile de Jean, Jean 20, 31, « Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie attendu, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Il faut avoir le cœur réceptif, et puis il faut la parole. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Vous pouvez avoir un cœur ouvert, mais s'il n'y a pas la vérité, s'il n'y a pas la parole, ça ne va rien donner. Et de même, si votre cœur n'est pas ouvert et que l'on vous donne la parole, ça ne servira de rien. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ, Romains 10, 17. Il faut que cette parole tombe comme une bonne semence dans un cœur préparé. Nous chantons souvent des chants qui parlent de Hosanna. Hosanna, Hosanna. Beaucoup d'entre nous, et moi pendant longtemps, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, Hosanna. C'est un peu comme Alléluia, allons-y, chouette, ça, tagalaboum boum, Hosanna. Non, Hosanna, c'est un mot qui vient de l'hébreu et qui veut dire Dieu sauve, sauve Dieu. S'il te plaît, Dieu sauve. Et c'est, on l'a dit déjà, le plus grand miracle, c'est le miracle du salut. Qu'une personne vienne à la confiance en Dieu pour sa vie éternelle, je suis moi-même toujours incrédule, surpris, émerveillé, presque sceptique. Est-ce qu'ils ont bien compris ? Est-ce que ces gens qui parlent de la parole de Dieu, qui disent qu'ils croient en Dieu pour leur salut, est-ce que c'est possible ? Et c'est possible par la parole de Dieu. On parle souvent d'évangélisation. On dit qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire de la musique. On va faire des sondages. Mais si vous ne donnez pas à vos interlocuteurs la parole de Dieu, il n'y aura pas de salut. Je vous encourage, vous qui voulez convaincre, convertir vos amis, vos familles, vos collègues, donnez-leur avant tout la parole. Des fois, vous dites, je ne sais pas comment faire, c'est compliqué. Tiens, il y a une session d'évangélisation pendant 10 semaines à l'église, je vais suivre ça, peut-être que je saurai. C'est pas mauvais, mais la première chose à faire, c'est de donner la parole. Alors, j'en profite pour faire une petite pub. On a des calendriers journaliers avec un petit verset et une petite phrase qui est expliquée, qui explique ce verset que vous pouvez acheter pour donner à vos amis, à vos parents, à vos collègues de travail. C'est très simple. Vous achetez, ça ne coûte pas très cher, 3 ou 4 euros, je ne sais plus le prix. Et chaque jour de l'année, s'ils jouent le jeu, ils vont prendre une nouvelle page avec un nouveau verset. Et la parole de Dieu, accompagnée par vos prières pour que le Saint-Esprit travaille leur cœur, va faire une œuvre remarquable. Vous allez voir, et j'ai l'habitude de donner régulièrement depuis des années ces petits calendriers à des, entre guillemets, non-chrétiens. J'espère qu'ils le deviennent, qu'ils sont de plus en plus près, mais il faut faire aussi un travail de suite. C'est eux qui viennent me réclamer le petit calendrier. Pourquoi ? Parce que ils ont soif de vérité. Ils ont soif d'encouragement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous comptez sur les nouvelles du soir, du journal télévisé pour vous encourager, pour vous donner la pêche, vous allez vite voir que c'est l'inverse. Vous regardez les nouvelles et vous êtes déprimé. L'économie, ça allait un petit peu mieux. Non, c'est en chute libre. Et on n'a rien vu encore. Puis on vous dit jamais quand ça va bien. Vous avez remarqué ça ? On vous dit en fait qu'il y a 20 ans, c'était formidable. Mais il y a 20 ans, on ne nous disait pas que c'était formidable. On nous disait que c'était terrible. C'était la cata. La cata de maintenant, elle est plus grande que la cata d'alors. Mais c'est la cata. Et ça n'arrête pas. J'aimerais bien que de temps en temps, on nous dise « ça va pas mal ». Et en fait, par bien des aspects, les choses ne vont pas si mal que ça. Parce que ça peut aller encore beaucoup plus mal. Et la Bible nous dit que ça va aller de pire en pire. On a la joie d'avoir parmi nous Stéphanie Williams qui a était une équipière à l'église il y a quelques années, que certains d'entre vous connaissent. Elle travaille maintenant comme sage-femme, un métier biblique, au Soudan. La partie où elle habite s'est constituée en État indépendant il n'y a pas très longtemps, le Sud-Soudan. Mais cette région du monde, c'est une région où les chrétiens sont persécutés. C'est une région à côté, c'est pas loin du Nigeria. Le Nigeria, un pays où si vous ne renoncez pas à votre foi, on peut vous tuer. Un pays où le 4 novembre, il n'y a pas longtemps, on a brûlé 10 églises. Et où les autorités tournent la tête de l'autre côté, laissent les extrémistes musulmans reliés à Al-Qaïda semer la terreur. Ça peut arriver ici. Donc les choses vont bien en ce moment ici. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu, elle est là pour nous dire la vérité. Pour qu'il y ait du fruit, pour qu'il y ait du salut, c'est la parabole du semeur qui allait semer la semence dans Luc 8. Vous vous souvenez de l'idée, c'était le semeur qui était sorti pour semer sa semence et il y avait différents types de terrains. Il y en avait une partie de la semence qui était tombée sur le chemin. Elle a été piétinée. Les oiseaux sont venus la manger. Une autre est tombée sur du roc. Et sur ce rocher, ça a commencé à pousser, mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'humidité, donc elle a séché. Une autre partie de la semence du semeur est tombée dans les épines qui ont étouffé cette semence. Et puis il y a une autre partie de la semence qui est tombée dans de la bonne terre et là elle a donné du fruit au centuple. Et Jésus a expliqué cette parabole que la semence, verset 11 du chapitre 8, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, c'est ceux qui entendent, mais qui se laissent voler la parole par le diable, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, c'est ceux qui sont emballés au début quand on leur parle de Jésus, de la parole, mais dès qu'il y a une épreuve, ils abandonnent. Ceux qui représentent la semence tombée dans les épines, c'est ceux qui se laissent accaparer par tous les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie et qui ne peuvent pas donner de fruits. Ceux qui ont une vie encombrée par des choses matérielles, par des recherches de plaisir, par la recherche de l'argent, ça ne donne pas de fruits. Et puis, ceux qui sont dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. La parole, elle donne le salut si elle tombe dans un cœur disposé. Et donc, je vous invite à offrir des Bibles, à offrir des calendriers. Lorsque vous parlez à quelqu'un, de leur laisser des versets bibliques, de leur donner des vérités bibliques. Vous n'êtes pas obligé de donner une Bible tout de suite, mais vous dites, tout homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, prononcée par Dieu. Et c'est petit à petit que cette parole, si le cœur est déjà ouvert, vous pouvez aussi prier pour que le Saint-Esprit ouvre le cœur de ces personnes, qu'elle va faire son chemin dans les cœurs et qu'elle va amener au salut. On peut rassembler des gens avec des tas de moyens. On le fait un peu pour avoir du monde à qui on essaye d'annoncer la bonne parole. Il suffit qu'on offre de la pizza gratuite sur la terrasse de l'église et les gens du quartier s'arrêtent. peut prendre des photos, dire Alléluia, réveil à Calvary Chapel. Non, il n'y a pas de réveil si la parole n'a pas touché les cœurs, si elle n'a pas été annoncée. On peut avoir du monde, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que la parole va tomber dans un cœur et produire son fruit, le fruit du salut. Ça, c'est un petit rappel, on en a parlé un petit peu, mais je crois que c'est important de voir les cinq effets de l'œuvre, les cinq aspects de l'œuvre de la parole de Dieu. D'abord, elle nous amène au salut. Sans elle, il ne peut pas y avoir de salut. Deuxièmement, on l'a vu la semaine dernière, c'est qu'elle nous apprend, elle nous enseigne. Elle est utile pour enseigner. Je vous renvoie à l'étude de la semaine dernière où nous avons dit qu'elle nous enseigne la doctrine. Ce qui compte, ce n'est pas tellement la façon dont on enseigne, ce n'est pas le processus qui est en vue, ce n'est pas la pédagogie, même si on va voir que c'est très important, mais c'est le contenu de la doctrine. C'est ce qui est transmis. On a vu dans 1 Timothée et dans 2 Timothée que Paul parlait du concept du dépôt, de ce qui avait été confié, la parole de Dieu qui vous a été confiée. Verset 20 de 1 Timothée 6 nous dit « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les vains discours et les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. » Il dit plus loin, verset 14 de 2 Timothée 1, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » La parole vous donne un ensemble de vérités sur lesquelles vous pouvez fonder votre vie. Elle vous montre comment vous devez vivre, comment vous devez penser, comment vous devez agir. Et si vous ne connaissez pas la parole, vous ne pouvez pas vivre correctement. Les gens qui vous entourent, qui ne connaissent pas la parole, ne peuvent pas vivre correctement. Alors ils peuvent être des bons citoyens, ils peuvent être sympathiques, ils peuvent être gentils. Nous avons tous en nous l'image, l'empreinte de l'image de Dieu. Mais ces gens-là ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne sont pas sauvés, et ils ne peuvent pas vivre parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Si on ne connaît pas, on ne peut pas vivre ces choses. On ne peut pas faire ce qu'on ne connaît pas. Il faut, on l'a vu, que Paul enseignait tout le conseil de la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, il s'adresse à l'église d'Éphèse, il leur rappelle qu'il leur a donné tout le conseil de la parole. Pas seulement les passages qui nous plaisent, les passages qui nous captivent, les mystères qui nous intéressent, qui nous fascinent, non, tout le conseil de la parole, toute la parole. Jésus a dit, Jean 17, 17, c'est un bon verset à ce dont il faut se souvenir, c'est facile parce que c'est 2 fois 17, Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité », parlant de la parole de Dieu. Le prophète Osée disait « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Ce dont notre monde a besoin, ce n'est pas des économistes plus astucieux, ce n'est pas des hommes charismatiques, des hommes politiques plus charismatiques, ce n'est pas des scientifiques plus sages. Notre monde a besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Très important de ne jamais penser qu'on peut régler les problèmes du monde en faisant des bonnes actions sans donner la parole. C'est très bien d'organiser des soupes pour les gens qui sont démunis, de loger les plus malheureux. Mais si on le fait en les laissant croire que c'est parce que nous sommes de bonnes personnes, on aura des comptes à rendre à Dieu. Si nous avons ce sentiment de compassion, de volonté d'aider l'autre, c'est parce que Dieu l'a mis en nous. Et nous devons donner à ces gens les indications pour aller vers Dieu. Souvent, et c'est intéressant, c'est les chrétiens eux-mêmes qui se limitent. On fait des bonnes actions, mais on n'ose pas dire que ce qui nous anime, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour que Jésus a mis dans nos cœurs par son Esprit Saint. On est gentil et les gens nous disent « Oh, qu'est-ce que vous êtes gentil, vous êtes vraiment sympa, on aime bien être... » Quand on vient ici, on est bien accueilli. Et vous dites « Oui, je sais, je suis très gentil. » Honte à vous ! Dites que vous êtes... au naturel, vous êtes la plus égoïste des personnes, mais c'est par l'amour de Jésus, par l'amour que le Saint-Esprit a mis dans vos cœurs que vous pouvez les toucher. Si vous ne le dites pas, c'est du travail en vain, c'est des bonnes œuvres vides de sens, des œuvres vaines. Vous allez les réconforter pour un temps, mais vous n'allez pas leur donner le trésor que vous possédez, celui de connaître la volonté de Dieu par sa parole. On a dans la Bible des exemples de passages où il y a eu des réveils lorsque les gens ont retrouvé l'enseignement de la parole, la doctrine, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est droit. Nous devons le connaître et la parole nous le révèle. Il faut bien connaître la parole. Dans Éphésiens 6, 17, vous vous souvenez, c'est le passage bien connu où Paul nous explique que nous ne nous battons pas contre des hommes, contre la chair et le sang, mais nous nous battons en fait contre des créatures sataniques, des puissances démoniaques. Nous nous battons contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et là, il nous dit de... Il commence à nous décrire la panoplie du chrétien, notre uniforme de chrétien, notre uniforme de combat, et il commence par la parole. Premier élément, la ceinture qui tient un peu tous les vêtements ensemble, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu pour ceinture. Et puis à la fin... on peut lire rapidement, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, et puis prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Le terme qui est décrit ici, pour l'épée, ça désigne la petite épée qui ressemble à une dague. C'est une petite épée avec laquelle on doit manier avec précision dans un combat rapproché. Le mot de parole de Dieu ici, c'est pas le mot logos, c'est le mot rhéma qui désigne une parole spécifique, qui désigne un verset particulier. Et plus vous connaissez la parole, plus vous êtes à même de vous en servir parce que vous la maniez avec précision. Paul disait à Timothée de s'efforcer de présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Toutes les situations de votre vie, toutes les possibilités que vous pouvez concocter, imaginer, la Bible va vous en parler. Elle va vous donner des conseils, elle va vous donner ce qui est juste. Et si vous connaissez ainsi la parole, lorsque vous allez être auprès de vos amis, de vos parents, de vos collègues, les gens que vous rencontrez en général, vous allez pouvoir utiliser un verset comme une petite épée pour corriger, pour reprendre. Et c'est pour ça que je vous encourage à mémoriser des versets. Mémorisez-les avec l'adresse du verset. Il n'y a rien de plus décourageant pour un pasteur que d'entendre quelqu'un qui dit « Oui, il y a un passage qui dit qu'il faut, il faut résister à la corruption. » Amen, c'est vrai, mais c'est vague. C'est de l'ordre de des propos vains, des propos, comment dire. C'est un peu de la guimauve, quoi. Il faut être gentil. Moi, la Bible dit qu'il faut être gentil. Non, allez voir, allez mémoriser des versets et utiliser ces versets avec précision. Ça, c'est toute la doctrine. Il faut... Ce passage de 2 Timothée rejoint les passages de l'Ancien Testament comme le psaume 19 ou 119. Psaume 119, c'est le plus long passage de la Bible qui ne parle que d'un sujet, la parole de Dieu. C'est là qu'il y a ces phrases. C'est « La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Sachez que la parole de Dieu, elle est entièrement suffisante pour s'occuper, pour traiter tous les aspects de votre vie spirituelle. On a dit que la parole était la vérité. On a dit que dans les manuscrits originaux, elle est parfaitement complète, elle est parfaitement sans erreur. Alors il y en a qui disent oui, mais c'est pas un livre de science, donc quand elle parle de science, des fois elle se trompe. Non. Elle est inhérente. Tout ce qui est dit par la Bible, par la parole de Dieu, vous pouvez compter que c'est la vérité. Et même dans les matières scientifiques. Ce n'est pas un ouvrage de science, mais chaque fois qu'il y a une référence faite à des données scientifiques, la science prouve que la Bible avait raison. La circoncision des enfants se faisait le 8e jour après la naissance. La science moderne a trouvé qu'en fait c'était effectivement le meilleur moment où les anticorps, la protection du système immunitaire était la plus forte dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un homme ou d'une femme, d'un homme. La science a dit, ah tiens, la Bible avait raison. On pensait que la terre était plate. Ésaïe parlait du disque de la terre qui était suspendu dans le ciel. Il a fallu attendre le 14e siècle, la révolution copernicienne de Copernic, cet astronome polonais, pour réaliser qu'en fait, la Terre était sphérique et qu'elle tournait autour du Soleil. La Bible, non seulement elle est, dans tous les domaines elle est vraie, mais tout ce qui concerne la vie spirituelle, la morale, elle est complètement suffisante. Il n'y a pas besoin de rajouter d'autres ouvrages, d'autres livres. Et ça, c'est un signe avec lequel vous pouvez reconnaître les sectes, les fausses religions, c'est qu'elles ajoutent quelque chose. L'islam reconnaît la vérité des Injils, l'Évangile, mais il y a le Coran qui a été rajouté par Mahomet. Les Mormons, ah, ils reconnaissent la Bible, se disent chrétiens, mais ils ont rajouté le livre de Mormon. Et ainsi de suite. Il y a toujours, ou alors les, dans l'histoire moderne, il y a des gourous qui ajoutent leur livre pour interpréter la Bible. Non, la Bible se suffit à elle-même. Il peut y avoir des ouvrages qui explicitent la Bible, mais qui la respectent. Comme ce qu'on fait en ce moment, je vous explicite un texte, mais Dieu me préserve de vouloir ajouter quelque chose ou d'en retrancher quelque chose. Le dernier chapitre de la Bible dit que, parlant de l'Apocalypse et de toutes les terribles cataclysmes et malheurs qui s'y produisent, que celui qui ajoute quelque chose ou retranche quelque chose à la parole, il en sera de même pour lui. Il va, c'est une grande responsabilité, c'est un trésor. On ne s'amuse pas à ajouter ou à enlever certains passages. Si nous connaissons la Bible, si nous la maîtrisons bien, si nous la lisons, si nous l'étudions, si nous en faisons une habitude, alors nous sommes prêts à affronter toutes les situations de la vie, quelles qu'elles soient. Apprendre la parole, le psalmiste disait dans le psaume 119, comment un jeune homme peut-il garder son sentier pur en gardant ta parole, en la conservant comme un trésor. Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mettre la parole dans votre cœur, c'est un peu comme mettre de l'argent à la banque. Quand vous avez besoin, vous pouvez retirer, vous n'êtes pas à sec. Bien trop souvent, les gens sont confrontés à des problèmes et ils sont complètement désespérés. Alors ils vont se tourner vers les psychologues, vers les psychiatres. J'ai bien aimé l'aveu d'un procureur qui, suite à un fait divers tragique, une jeune fille qui a été violée, tuée, brûlée par un jeune homme qui était suivi par un traitement psychiatrique, il a dit « La psychiatrie n'est pas une science exacte. Amen. » C'est bien qu'ils l'admettent de temps en temps. Souvent, on nous la présente comme la façon de régler tous les problèmes. Il faut aller voir son psy. Il peut y avoir des bonnes choses dans l'écoute, dans la façon de faire parler, mais la Bible est toute suffisante pour adresser, pour régler, pour traiter, pour vous donner des conseils dans toutes les situations. Vous n'avez pas besoin d'aller voir votre psy. Allez voir Jésus. Lisez la parole. À la limite, s'il y a des crises, des fois ça peut être des déséquilibres de votre chimie interne ou des médicaments peuvent aider. Mais dans notre société, on accorde une telle importance à cette sagesse qui n'est qu'une sagesse humaine que c'est triste à pleurer. On voit quand il y a une catastrophe aérienne, pas de souci, on a envoyé une équipe de psychologues. Oh, ne m'envoyez pas une équipe de psychologues quand je rencontre une tragédie, s'il vous plaît. Parlez-moi de la parole, parlez-moi de Jésus, parlez-moi de son Saint-Esprit. Alors, je vois qu'en reprenant ces thèmes, on a dit que la parole nous donne la sagesse en vue du salut. On avait vu qu'elle était inspirée de Dieu, qu'elle est utile pour enseigner. On va juste parler du troisième aspect. Elle est utile pour convaincre. Convaincre, c'est montrer ce qui n'est pas juste, c'est reprendre, c'est réfuter. La parole construit, on l'a vu dans le fait qu'elle est utile pour enseigner. Mais souvent, elle vient pour détruire. Et c'est une bonne chose. Pour avancer, des fois, il faut non seulement construire, mais il y a des fois où on doit revenir et détruire les mauvaises habitudes. On doit détruire ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas bien dans notre vie. Et la parole est à même de le faire. Non seulement elle nous encourage, elle nous montre ce qui est bien, mais elle va me montrer ce qui est mal dans ce que je fais. Timothée va recevoir au chapitre 4, que nous verrons plus tard, il est dit que il faut convaincre, reprendre, exhorter. Ça veut dire qu'il faut interrompre les gens, il faut les arrêter dans leur erreur, et souvent la parole fait cela. Bien souvent, quand je lis la parole, et je pense que tout va bien, c'est que je n'ai pas bien lu la parole. Parce que si je me laisse toucher par la parole, généralement, il va y avoir des choses douloureuses, des choses que je fais que je dois abandonner, des choses dont je n'avais pas tout à fait conscience, et la parole me montre la réalité de mon cœur. Elle nous convainc de péché. L'Esprit Saint nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le passage bien connu d'Hébreux 4, 12 nous dit que la parole est vivante. La parole de Dieu est vivante, efficace. Elle est efficace. Ça marche, la parole de Dieu. Elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. La parole, si vous la laissez faire, va vous transpercer au plus profond de vous. Elle va vraiment vous révéler des choses que peut-être vous vouliez ignorer. Et c'est pour ça que les pécheurs n'aiment pas être exposés à la parole. Souvent, les pécheurs préfèrent aller dans des églises où on ne parle pas trop de la parole, parce que la parole, elle peut faire mal. Tout est visible par Dieu. C'est le verset 13 qui suit le verset 12 sur la parole de Dieu vivante. Elle nous met à nu. Elle nous terrasse aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Je lisais que dans l'ancien temps, on utilisait des épées pour que les criminels qui paradaient devant les foules ne baissent pas les yeux. Mais on leur donnait un coup avec la pointe de l'épée pour qu'ils dressent leur tête et que les gens puissent les voir les yeux dans les yeux. Qu'ils puissent vivre leur honte. Souvent aujourd'hui, lorsque vous avez les caméras de télévision pour quelqu'un qui est mis en examen ou qui est accusé, que fait la personne ? Elle se cache sous son imperméable, sous son parapluie ou son manteau, parce que nous ne voulons pas faire face à notre honte. Et là, la parole, elle nous met à nu, elle nous terrasse. Il est bon de que mon péché me soit révélé. C'est pas un plaisir, mais c'est nécessaire. C'est un peu comme ces plats chinois ou vietnamiens. C'est doux, amer. Ça fait mal, mais en même temps, on sait que ça fait du bien, donc c'est bon. La parole, non seulement me montre mon péché, mais elle montre l'erreur dans la doctrine. C'est elle qui va mettre en évidence ceux qui falsifient la parole. Le prophète Amos parlait de la parole comme d'un fil à plomb à la lumière duquel ou au contact duquel on peut voir si notre vie est de travers ou pas. Est-ce que je donne la priorité à des choses qui sont secondaires ou pas ? Est-ce que, comme Esaïe le disait, j'ai tendance à aller consulter mon horoscope, voir les morts. Non, il disait, allez à la loi et au témoignage. Allez à la parole pour savoir ce qui se passe dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire une fois par semaine, mais qu'on devrait faire tous les jours. Les habitants de la ville de Bérée étaient complimentés par Paul parce que chaque jour, ils allaient examiner ce que disait Paul pour voir si c'était conforme à la parole. Ils prenaient leur fil à plomb pour voir si les choses étaient droites. Elle est là aussi pour redresser. C'est comment remettre les choses droites. Je suis un peu gêné depuis quelques semaines de me présenter avec vous dans cet attirail. J'ai cette prothèse, enfin c'est pas une prothèse, c'est une attelle, qui est là, pourquoi ? Pour remettre droit mon os. J'ai cassé la tête de l'humérus, et si je mets cette attelle, apparemment, j'espère que c'est vrai, ça met l'os en position d'être bien ressoudé. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Quand c'est mal, elle redresse les choses. De Timothée 3, 16. On parle des fois du mot orthopédique pour dire des semelles qui vous mettent les pieds droits. C'est un mot qui se rapproche aussi, le mot de redresser, c'est un mot qui a la même racine, orthos, ce qui est droit et remis droit. Ce qui est bien, c'est que on dit que le tibia de Pelé, le célèbre footballeur brésilien, est l'os le plus solide au monde. Ou était, peut-être que maintenant avec l'âge ça a changé. Pourquoi ? Parce qu'il a eu son tibia cassé à 3 reprises. Il était le meilleur joueur du monde et les défenseurs étaient sans pitié pour lui. Et à 3 reprises, sa jambe a été cassée. Mais à chaque fois, sa jambe, son os a repoussé avec davantage de matière osseuse. Et le 3e qu'il a cassé, il a dû vraiment y aller fort. Mais du fait qu'il avait été cassé, son os avait repoussé plus solidement. Et avec la parole de Dieu, elle est capable de faire que des choses qui sont des faiblesses dans votre vie deviennent vos plus grandes forces. Si ça, c'est pas encourageant, vous qui avez des péchés habituels, des problèmes, moi qui ai des péchés habituels, des problèmes de vie, de comportement, d'attitude, en fait, je peux faire confiance à la parole de Dieu pour faire que, par la transformation opérée par l'Esprit Saint et la parole, ces faiblesses deviennent des forces. Moi qui suis distrait, ou moi qui suis gourmand, moi qui suis tenté par les choses de l'impureté sexuelle, je peux devenir un rocher de droiture, de pensée qui honore Dieu. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. C'est ce que disait Jésus lorsque, dans sa comparaison de la vigne, il disait « Vous avez été émondés, les branches qui ne portaient pas de fruits, elles sont coupées, et ça va permettre à celles qui sont vivantes, qui restent, d'avoir toute la sève et de porter de bons fruits. » La parole de Dieu nous montre ce qui ne va pas, elle nous montre comment faire ce qui est bien. Et puis, elle nous éduque dans la justice. Ça, souvent, c'est le mot qui se retrouve dans le mot pédagogie, qui veut dire que ça s'adresse comme à des enfants. Elle nous éduque, elle nous fait grandir dans la justice. Nous avons besoin de nourriture spirituelle. Pierre compare la parole de Dieu comme du lait à du lait. Et 1 Pierre 2:2, comme un bébé désire le lait, vous devez désirer la parole de Dieu. Les bébés, vous savez, il y a deux choses qu'ils font, et c'est à peu près tout. Ils veulent du lait, donc ils vont insister pour que vous leur donniez du lait. Et la deuxième chose, est une conséquence de la première, ils veulent que vous vous occupiez des conséquences du fait qu'ils ont bu du lait. Et ça, ça résume leur vie. Courage les mamans, avec les enfants en bas âge. Ils ont besoin de lait, et nous aussi, nous avons besoin d'être rendus plus forts, d'être éduqués dans la justice. Un passage Hébreux 12, 5 nous dit que cette éducation dans la justice, dans ce qui est bien, dans ce qui est droit, ça passe souvent par la correction. Et ce passage d'Hébreux 12 nous dit de ne pas négliger, de ne pas prendre à la légère la correction du Seigneur, parce que c'est la preuve qu'il nous aime s'il nous corrige, et ça nous conduit à la sainteté, elle nous fait participer à la sainteté, cette correction. C'est la même idée que cette justice, ce qui est droit, est donné. On voit, et on pourrait faire toute une série sur vous l'avez remarqué, sur la parole de Dieu. Bientôt on étudiera, je pense, le psaume 119. J'aimerais juste terminer avec le psaume 19. Vous laissez quelques vérités bibliques. Le mot de parole de Dieu prend différents aspects. Elle est la loi, elle est le témoignage de l'Éternel, elles sont les ordres de l'Éternel, elle est le commandement de l'Éternel, elle est la crainte de l'Éternel, elle est les ordonnances de l'Éternel. Et dans le psaume 19, on va lire le verset 8 à 11. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. D'autres traductions disent « elle convertit l'âme ». Le fait qu'elle nous amène au salut. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti, verset 12, pour qu'il les observe, l'avantage est grand. La parole de Dieu va vous amener le succès dans vos entreprises. Pas nécessairement le succès financier, mais elle va vous donner la vraie prospérité, la prospérité de votre vie spirituelle. Et vous allez, et ça c'est la conclusion, c'est être prêt pour toute œuvre bonne. Dieu pourrait, après nous avoir sauvés, nous transmuter, nous transporter rapidement avec lui dans les cieux, ce serait pas mal. Mais il a choisi de nous laisser ici-bas parce qu'il nous associe à son œuvre et il a préparé des œuvres bonnes. Et si nous connaissons la parole, si nous la mangeons, c'est le prophète Jérémie, je crois, qui disait que tes paroles ont été découvertes, je les ai avalées, elles sont devenues la joie de mon cœur. Je devrais vous trouver le passage, c'est Jérémie 15, 16. Tes paroles se sont trouvées devant moi, et je les ai dévorés, je les ai mangés avec appétit, goulûment, je les ai assimilés. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce passage qui nous montre l'œuvre de ta parole dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Et non seulement il y a le salut, le fait d'être pour toujours avec toi, mais elle nous montre ce qui est juste, elle nous montre ce qui n'est pas juste dans nos vies, elle nous montre comment rendre les choses justes et comment les garder justes pour pouvoir être utilisées par toi. Seigneur, agis dans nos cœurs, dans nos vies, donne-nous cette soif de la parole, Seigneur, comme les enfants n'ont pas besoin qu'on leur demande de boire du lait, ils le réclament. Aide-nous à être ces chrétiens qui réclament ta parole, qui ne peuvent pas s'en passer, Seigneur. Pas pour nous vanter de quelques connaissances, mais simplement parce qu'elle est inspirée par toi et elle est utile pour toutes ces choses. Nous prions cette requête, Seigneur, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.